C'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un mois à peu près, Nasser nous avait exhorté, il est parti Nasser, il nous avait exhorté autour d'une question fondamentale que Jésus a posée à ses disciples. Est-ce que vous vous souvenez de cette question, il y a un mois? Qui dites-vous que je suis? Jésus pose cette question à ses disciples en leur demandant, qui dites-vous que je suis? C'est l'une des questions les plus fondamentales de l'histoire de l'humanité, parce qu'elle concerne chaque homme, chaque femme qui foule la surface de cette terre. Et la manière avec laquelle on répond à cette question détermine finalement le cours de notre vie, va structurer notre vie, va structurer notre être et notre identité. Donc, Nasser avait parlé de cette question, il en avait donné deux corollaires. C'est, une fois que j'ai répondu à cette question, je réponds à une deuxième question, quelle est la mission de Jésus? Et sa troisième question, c'était, en fonction de ça, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Donc j'espère que vous avez réfléchi à ces questions, parce que c'est vraiment fondamental, c'est une étape dans la vie chrétienne. On est en train d'accompagner un groupe de jeunes qui vont se faire baptiser. Tiens, d'ailleurs, peut-être ils peuvent se lever. Cécile, Anastase et Michael. Levez-vous tous les trois. Voilà, j'aimerais que vous les voyez parce qu'ils ont vraiment besoin de nos prières, de vos prières. Il faut prier pour eux. Ils sont en train de se préparer au baptême. Ils ont besoin de comprendre la réalité de la vie chrétienne. Donc ne les abandonnez pas dans leurs prières, dans vos prières. J'aimerais, à la suite de ce que Nasser nous a dit, aborder deux autres questions qui sont tout aussi pertinentes, qui ne concernent pas spécialement la relation que j'ai avec Jésus, mais qui concernent plutôt notre être. Et on va ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Luc, au chapitre 22. Autant la question de Jésus, dont on a parlé tout à l'heure, était en milieu de ministère, là on est plutôt à la fin du ministère de Jésus sur cette terre. Il va bientôt donner sa vie, comme l'a rappelé Jérémie dans sa prière, donner sa vie pour nous pardonner nos péchés. Et en Luc chapitre 22, on est justement au moment où Jésus instaure la scène, ce qu'on vient de prendre maintenant, qui est un repas en mémoire de Jésus, simplement ça. Aucune magie dans ce pain et ce vin, aucun mystère, c'est juste un mémorial. Et donc Jésus est en train d'instaurer la scène et il est en train de dire à ses disciples qu'il va partir. Voilà, on va lire à partir du verset 22. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. C'est-à-dire il y a un plan, Dieu a un plan pour faire mourir Jésus parce que c'est l'agneau parfait qui va pardonner nos péchés. Donc Jésus annonce qu'il s'en va selon ce qui est déterminé. C'est pas juste un coup du sort, une malchance qui est tombée sur Jésus ce jour-là. Non, c'est déterminé à l'avance par Dieu le Père. Jésus doit mourir pour sauver chaque homme, chaque femme qui est sur cette terre. Mais malheur à cet homme par qui il est livré. Et à ce moment-là, verset 23, ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui allait faire cela. Verset 24. Il s'éleva aussi parmi eux une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Verset 25, Jésus leur dit, les rois des nations les dominent, et ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Il n'en est pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Voilà, donc Jésus, ici dans ce passage, on a deux questions fondamentales qui sont posées par les disciples. Deux questions fondamentales qui vont être l'objet de notre méditation ce matin. La première de ces questions, c'est qui est le plus grand? Alors, les disciples, ils comprennent que Jésus va partir. Jésus était, pour les disciples, le maître. Ils se disent, le maître s'en va. Ils n'ont pas compris où il allait, ils n'ont pas compris que Jésus allait revenir, qu'il allait envoyer le Saint-Esprit, c'était caché pour eux. Et ils se disent, bah, Jésus il part, le numéro un s'en va, c'est qui va prendre sa place, hein? C'est comme le patron de Total, Christophe de Margerie, meurt, bah, qui est-ce qui va prendre sa place? Qui est le plus grand? Voilà. et ainsi de suite, dans toutes les associations, les groupements, etc. C'est toujours qui est le plus grand, qui est le numéro un, qui est le premier, qui est le champion du monde, qui est classé premier, deuxième, troisième, etc. Deuxième question de disciples, c'est qui est-ce qui va faire ça? Qui est-ce qui va livrer Jésus? Parce que Jésus dit, quelqu'un va me livrer. Alors ils se demandent tous, mais c'est qui le coupable? Et ces deux questions sont fondamentales parce que nous sommes ici dans les derniers instants de la présence de Jésus. Et ces deux questions, eh bien, elles vont structurer qui on est dans cette vie sur cette terre. Je m'explique. La première des questions va soulever la question de la grandeur. C'est quoi la grandeur? C'est quoi être grand? Jésus va donner une réponse, hein, on l'a lu tout à l'heure. Le plus grand, c'est celui qui sert. Hein. La preuve, c'est que lui qui est le plus grand, qui est Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait juste quelques minutes avant? Il a lavé les pieds de ses disciples, on le voit dans l'évangile de Jean, chapitre 13. Donc, notion de grandeur, premier élément. Le deuxième élément, c'est la notion de culpabilité. C'est qui, finalement, le coupable? Qui est-ce qui va être coupable? J'espère que ce n'est pas moi. Je ne suis pas coupable. C'est certainement un autre. Vous voyez? Et là, ce sont deux questions qui font appel à la responsabilité individuelle. Dans mon cœur, c'est quoi la grandeur? Et dans mon cœur, c'est quoi la culpabilité? On va essayer de répondre à cette question qui est une question pertinente. Parce que si je n'ai pas aujourd'hui une juste compréhension de ces deux questions, de la même manière que si on n'a pas répondu à la première question que Nasser nous avait posée il y a un mois, qui est Jésus pour vous? Mais cette fois-ci, si je n'ai pas une juste compréhension de ces deux questions, je peux m'exposer à des sérieux déboires dans la vie. Et en fait, quand on cherche à être premier, quand on cherche à être le plus grand, quand on cherche à se dédouaner de la culpabilité, eh bien, en général, tout le monde n'est pas numéro un. Bah, pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule place de numéro un. Donc, s'il y en a un qui l'occupe, on est 70-80 dans cette salle. S'il devait y avoir un numéro un, il n'y aurait qu'une seule place. Et chez nous, il n'y a pas de numéro un. Il n'y a que des serviteurs. On n'a pas de pasteur, on n'a pas de... Voilà, de personnes qui dirigent tout, c'est un collège qui dirige. Parce que le plus grand, c'est celui qui sert. Donc beaucoup de nos contemporains se retrouvent aujourd'hui dans toutes sortes d'ennuis, d'épreuves, de difficultés. Les gens sont éprouvés. Donc quelque part, il y a cette aspiration à être le plus grand, à ne pas être responsable. Et de l'autre côté, eh bien, on a parfois beaucoup, beaucoup de difficultés dans la vie. Les questions qui vont avec ces deux questions-là, c'est si je ne peux pas être numéro un, et si j'échoue, si ça se passe mal dans ma vie, et si je vous demandais ce matin, est-ce que tout se passe bien dans votre vie ou est-ce que vous avez des difficultés? Si j'échoue à être numéro un, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je perds ma raison d'être? Est-ce que je dois me suicider? Est-ce que voilà? Il y a des gens qui vivent très très mal. Les athlètes aux Jeux Olympiques, par exemple, quand ils ont été numéro un ou quand ils ont échoué, médaille d'argent ou quatrième, la plus mauvaise place aux Jeux Olympiques, il y a des gens qui tombent en dépression pendant des années parce que voilà, on ne peut pas être numéro un tout le temps, c'est pas possible. Et cette notion de culpabilité, la question corollaire, c'est si je suis coupable, si je reconnais que je suis coupable, qu'est-ce qui va se passer? Alors je vous ai dit, la plupart d'entre nous, moi le premier, on est soumis à des épreuves continuelles. Et parfois on est brisé. On est brisé par la vie. Si je devais demander ce matin, qui est brisé par la vie aujourd'hui? Je vous pose cette question, répondez intérieurement. Mais la plupart d'entre vous pourraient dire, oui, je suis brisé par la vie. Donc je suis très loin du standard que le monde essaye de nous imposer. D'être numéro un, de ne pas être responsable, pas coupable. Parce qu'on est brisé souvent par la vie. Regardez cette citation. C'est une personne qui parle, une personne qui vivait au siècle dernier. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Je suis acculé à travailler dur et à souffrir seul. Cette personne est seule. Je vous en parlerai là en quelques minutes. Mais c'est une personne qui a placé son espérance en Jésus. Et il dit, non, je ne suis pas seul, car Dieu est plus proche de moi que jamais. Je suis affligé, mais pas abandonné. Jésus est ma vie, ma force, et son sein est mon lieu de repos. maintenant et pour toujours. Est-ce que vous savez qui a écrit cette citation? Ce n'est pas une citation biblique, mais ça pourrait l'être. Ça vous dit quelque chose? Non? Personne? Un grand missionnaire. Un grand missionnaire qui a évangélisé la Chine. Et au moment où Hudson Taylor écrit ça, il a 27 ans. On est en 1870. Il est marié depuis 12 ans à Maria Dier. Il a 4 enfants, mais 3 ans plus tôt, sa première fille, Grace, qui était son cœur, son trésor, imaginez, votre première fille. Qui a eu une fille en premier, là, levez la main. Il y en a qui ont eu des filles. Hein. Imaginez votre première fille, eh bien, sa première fille, Grace, parce qu'on est au 19e siècle, elle lui a été enlevée par la maladie, elle a été emportée à l'âge de 8 ans. Et là, au moment où il a écrit ça, son épouse a mis au monde leur 6e enfant. Et cet enfant ne va survivre qu'une semaine. Pire encore, cette épouse, Maria Dier, affaiblie par le choléra, meurt peu de temps après. Et Hudson Taylor se retrouve en ayant perdu une fille, un deuxième enfant, et ayant perdu son épouse. Et il écrit ça. Je suis acculé. Et finalement, il reconnaît, par ses paroles, il reconnaît que ce dont il a besoin, c'est pas de lutter ni de combattre. Aujourd'hui, on doit dire, tu dois faire face à la vie, c'est difficile, etc. Tu dois te battre. Oui. Mais ce que Hudson Taylor reconnaît, c'est qu'il a surtout besoin de repos en lui, en Jésus. Et c'est pour ça qu'il écrit ça. C'est pour ça qu'il écrit ça. Et à la suite de cette épreuve, qui est une des nombreuses épreuves qu'il a subies dans sa vie, voilà ce qu'il écrit à un ami missionnaire, en citant l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 37. Il écrit à ce missionnaire, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Il cite les paroles de Jésus, là. Et ensuite, il continue, « Peu importe combien mon service est difficile, combien ma perte est triste, combien impuissant je suis, combien sont profonds les soupirs de mon âme. Peu importe ça, je suis affligé, je suis acculé, je suis brisé. Jésus peut satisfaire à tous mes besoins. Et de plus, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et si vous lisez la biographie d'Hudson Taylor, il en a eu d'autres d'épreuves. Il s'est remarié après, il a été sans arrêt dans l'épreuve. Et pourtant, il a tenu parce qu'à un moment donné, il a compris qu'il n'est pas seul et que c'est le repos en Jésus qui peut seul étancher la soif de tout contemporain qui cherche soit à être numéro un, soit à se dédouaner de sa culpabilité. Et Hudson Taylor n'est pas un cas isolé. Je pense que bon nombre d'entre nous pourraient s'identifier plus ou moins à lui. Chacun de nous, surtout si on est un peu avancé en âge, avec des cheveux blancs comme moi, eh bien on a connu et on connaîtra encore des moments comme ça. Donc c'est une donnée constante de la vie. La vie, c'est pas être numéro un, c'est pas se dédouaner de la culpabilité, mais au contraire, c'est de comprendre que dans la vie, on a de nombreux moments de brisement, et que derrière ces brisements, eh bien, Dieu est là. Jésus est là parce que lui a été brisé. Et je fais le lien avec ce message aujourd'hui parce que je vais avoir la difficulté de parler sur Ésaïe 53. Vous savez qu'on étudie Ésaïe et dans quelques mois, eh bien, on aura un message sur Ésaïe 53. Et je réfléchissais à ce message, je faisais le lien avec ce que Nasser nous a dit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler du brisement. Comment on peut interpréter le brisement que l'on vit dans notre quotidien à la lumière de la Bible. Regardez un peu. David, il écrit au psaume 31. Je suis un oublié des cœurs comme un vase brisé. Il est dans l'épreuve, là, et sa confiance en Dieu, elle est mise à mal. Parce que quand on est dans l'épreuve, on se dit, mais Dieu, il est où? C'est qui? On a un Dieu, là, sur terre. Il y a un Dieu, et moi, je suis dans le malheur. Je ne suis pas numéro un. Qu'est-ce qui se passe? Au psaume 38, il fait face à la tristesse que procure le péché. On ne sait pas exactement quand ce psaume a été écrit. On suppose que peut-être ça a été écrit après, à la fin de la vie de David, lorsque il fait ce dénombrement là, et que Dieu est irrité et il envoie la peste. Voilà, il y a une épidémie de peste qui décime des milliers de personnes. Il est sans force. Hein, c'est un des psaumes de pénitence de David. Regardez Jérémie. Pas notre Jérémie, hein. Le Jérémie de la Bible. Jérémie, lui, il exprime toute son émotion face au péché du peuple. Le peuple d'Israël, on est au 6e siècle avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël a complètement failli, il a péché, il va être déporté à Babylone, il va être complètement, la nation va être dispersée. Et Jérémie vit toute cette émotion. Si vous aimez un peu la peinture classique, Rembrandt a peint plusieurs tableaux de Jérémie qui pleure sur les ruines de Jérusalem. C'est enfin, l'expressivité du peintre Rembrandt, qui était un chrétien, et exprime cette émotion. Il est épouvanté, il est dans la tristesse. Et puis un anonyme de la Bible qu'on ne connaît pas, dans le psaume 102, voyez, il se décrit comme un pélican du désert, on a le mot désert, le mot chahuant, épuisé de sommeil, il y a des gens qui ne dorment pas, qui sont en difficulté. Je sais qu'aujourd'hui dans cette salle, il y a des gens qui n'ont pas dormi cette nuit, qui ont mal dormi. Je n'ai plus de sommeil, je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Est-ce que vous vous êtes un jour trouvé dans la situation où vous dites « je suis un oiseau solitaire, je suis tout seul ». Je suis abandonné, personne ne pense à moi, Dieu m'a oublié, etc. C'est une situation que l'on vit tous et qui est loin du standard que le monde veut nous imposer. Le monde dit, vous devez être numéro un, vous devez être fort, puissant, tout réussir, vous n'avez pas le droit à l'échec, etc. Il faut montrer qu'on est beau, qu'on est grand, etc. Et ces exemples nous montrent que la vie n'est pas ça. La vie, elle est difficile. La vie est une succession de brisements. Et mon message ce matin, c'est de dire que Dieu se sert parfois de notre brisement. Je ne dis pas qu'il le fait volontairement, il permet que nous soyons brisés, parce qu'il veut en faire un tremplin vers la vraie grandeur. Et la vraie grandeur que nous enseigne la Bible, ce n'est pas numéro un, c'est le plus grand, c'est celui qui sert. Et on va voir qu'il y a deux types de brisements. Il y a deux types de brisements, il y a le brisement qui va nous amener vers le haut, qui va nous faire participer à la sainteté de Dieu. Et puis il y a le brisement qui va nous amener à reconnaître notre péché. Et ça fait pendant à ces deux questions des disciples. Si je suis numéro un, Dieu au contraire, au lieu de devenir numéro un, Dieu au contraire va me montrer que le chemin vers le haut, c'est le chemin de brisement. Il faut descendre d'abord pour monter ensuite. Et le deuxième chemin, c'est la culpabilité, c'est de quoi je suis coupable, et parfois c'est la reconnaissance de mon péché. C'est pas parce que je suis converti depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, que j'appartiens à Jésus, que je n'ai pas de péché, que je n'ai pas besoin de reconnaître mon péché. On verra des exemples. Donc Dieu se sert du brisement comme un tremplin vers la vraie grandeur. Et vous savez, ces disciples, Jacques et Jean, qui à un moment donné demandent d'être à la droite de Dieu. Hein, c'est la mère qui demande pour eux. Hein. On veut être assis à ta droite et à ta gauche. On veut être numéro un. Alors non, numéro un c'est pris, donc numéro deux, on s'en contentera. Et qu'est-ce que Jésus va leur dire? Il va leur dire, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Alors eux, bien sûr, tout fiers. Mais ouais, bien sûr, on va pouvoir la boire la coupe. Tiens, tu parles. Et Jésus leur dit, oui, effectivement, vous allez la boire la coupe. Et ils ne savent pas à quoi ils s'attendent. Mais la vie chrétienne, c'est ça. Mais quelles que soient les circonstances du brisement, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, on a deux assurances. On a deux assurances. La première des assurances, c'est que l'Éternel, il ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Et ça, c'est encourageant. Parce que dans le monde, il n'y a pas de place pour les losers. Pour ceux qui ne sont pas numéro 1, il n'y a pas de place. Le numéro 2, il est humilié. Le numéro 4, c'est encore pire, il n'a même pas la médaille. Il a la médaille en chocolat. Mais avec Dieu, Dieu ne dédaigne pas les cœurs brisés. C'est ce que David écrit dans ce psaume 51 qu'on verra tout à l'heure. Et la deuxième assurance, c'est que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc si ce matin tu es brisé par la vie, si tu as été brisé par la vie, si tu n'as pas d'espoir, l'Éternel, il est tout prêt. Parce que Dieu, il est dans l'épreuve. On a vu Jérémie tout à l'heure qui se lamentait sur le peuple. Dieu a toujours été avec Jérémie. Il l'a préservé. Il n'a jamais permis que Jérémie soit mis en difficulté. Il l'a protégé. Même quand il était descendu dans la citerne, il a toujours envoyé quelqu'un. Donc l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Gardez ça en ligne de mire. Alors j'aimerais justement voir ces deux situations rapidement. La première de ces situations, c'est que le brisement, eh bien, nous amène vers le haut. C'est ce qu'on pourrait appeler la discipline du désert. La discipline du désert. Vous avez peut-être connu une situation de désert. On va lire dans l'Épître aux Hébreux, parce que je trouve que c'est un texte qui résume bien, finalement, lorsqu'on fait confiance à Dieu et que pourtant on est dans le désert, on est dans le brisement, et ça donne un sens à ce que l'on peut vivre. On va lire Hébreux chapitre 12 et verset 5, à partir du verset 5. Hébreux chapitre 12, verset 5. J'ai peut-être le texte qui est affiché, oui. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils de Dieu, des gens qui appartiennent à Dieu. Mon fils, ne prend pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Une correction, ce n'est pas une volée, c'est quelque chose qui permet de redresser. Donc il faut voir parfois le brisement comme quelque chose qui va redresser un trajet, une trajectoire qui n'était pas la bonne. Ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Et il frappe de verge celui qui l'agrée. Alors, ce n'est pas la bonne version non plus. Je devrais lire, ça c'est la version du semeur. Il châtie ceux qui reconnaissent ses fils. Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensé de la correction qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, nous avions nos parents terrestres pour nous corriger, nous les respections. C'est vrai que parfois on a eu des parents qui n'était pas toujours très juste avec nous. Mais n'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père Céleste pour avoir la vie? Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité selon leurs idées, en se trompant, on pourrait rajouter. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. C'est difficile de comprendre que parfois Dieu nous brise pour notre bien. Quand on est dedans, c'est difficile. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie. Qui est-ce qui se réjouit lorsqu'il est brisé, lorsqu'il est accablé, comme Hudson Taylor? Qui est-ce qui se réjouit lorsqu'on perd un enfant, deux enfants, lorsqu'on perd son épouse? Mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont été ainsi formés, une vie juste vécue dans la paix. Et pour reprendre ce qu'écrivait Hudson Taylor, il était dans la paix lorsqu'il écrivait ça. Et pourtant, il avait subi quelque chose que peu d'entre nous, ou pas même, ont subi dans leur vie. Donc, de nombreux hommes de Dieu ont connu cette discipline du désert. Elle est plus ou moins longue, selon les faits souhaités, parce que Dieu sait de quoi on a besoin. Il connaît la durée de l'épreuve pour nous façonner à son image. On sait que Joseph, par exemple, a passé 17 ans en prison. Joseph, ce petit-fils à papa, qui avait une belle tunique, eh bien, il avait besoin d'être brisé, parce que si, quand on dirige un pays comme l'Égypte, il a été nommé comme premier ministre d'Égypte, il ne pouvait pas avec le caractère qu'il avait. Ce n'est pas possible. Et c'est ce qui forme le caractère, c'est ce qui forme en nous le caractère de Dieu. C'est-à-dire qu'au travers du brisement, Dieu est en train de me préparer, de vous préparer chacun à quelque chose qu'il a en réserve, que vous ne comprenez pas aujourd'hui. C'est ce que Jésus dit à ses disciples lorsqu'il va leur laver les pieds. Pierre lui dit, non, mais toi, tu ne me laves pas les pieds. Tu n'as pas à me laver les pieds. Pierre qui donne des ordres à Jésus. Et Jésus lui dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Et Pierre a compris, parce que quand on voit ses épîtres, ce qu'il écrit, et pour ceux qui lisent le calendrier, méditation quotidienne, il y avait une exhortation, 1 Pierre 4 ce matin, qui parlait de ça justement. Et beaucoup de gens ont connu la discipline du désert. Jésus a connu la discipline du désert. 40 jours, tenté dans le désert. Jean-Baptiste, il est parti dans le désert. Jean-Baptiste, un fils de sacrificateur, il avait une carrière toute tracée. Il aurait été sacrificateur, sauf qu'il a préféré les vêtements de poils de chameau et le désert. Élie, à un moment donné, l'expérience du désert du mont Horeb, il a été entraîné dans le désert. Élie, en pleine déprime, il demande la mort sous le genêt. Dieu l'envoie à Horeb et il se révèle à lui dans un murmure doux et léger. David a connu le désert, la fuite, se cacher dans les grottes, les cavernes d'En-Gedi. L'apôtre Paul, 3 ans, il est parti en Arabie dans le désert, etc., etc. La discipline du désert, c'est une discipline qui forme le caractère. Et moi, j'ai connu aussi des disciplines du désert. Et j'en connais une encore actuellement, où Dieu est en train de travailler une qualité chez moi que je n'ai pas, qui est la patience. Et j'ai besoin d'être éprouvé, parce que j'ai besoin d'être patient. Moïse aussi, on aurait pu citer Moïse. Moïse, un homme emporté, qui voulait, à 40 ans, être le sauveur. Et Dieu lui a dit, non, t'es pas prêt. 40 ans avec les moutons, et là tu seras prêt pour emmener un peuple de 5 millions de personnes à travers le désert. Regardez l'apôtre Paul. Lorsqu'il écrit, lorsqu'il se présente, vous savez, il a écrit beaucoup de lettres du Nouveau Testament, et il s'introduit, il se présente quand il écrit aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Thessaloniciens, aux Corinthiens. Et plus la vie de Paul progresse, plus il comprend la réalité de qui il est. Regardez dans Galates. Galates chapitre 2, verset 6. Il va parler, il écrit donc Galates chapitre 2, verset 6. On va prendre ce verset. Pour ceux qui ont leur Bible, je ne l'ai pas affiché. Galates chapitre 2, verset 6. Regardez comment Paul se présente. Il dit, quant à ceux qui paraissaient les plus considérés, donc il parle des apôtres de Jérusalem, Jacques, Jean, Pierre. Quant à ceux qui paraissaient les plus considérés, ce qu'ils avaient été autrefois ne m'importe peu. Dieu ne fait pas de considération de personne. Les plus considérés, donc ces apôtres, ne m'ont rien imposé. Donc, il parle, il a 14 ans de vie chrétienne, là, et il est fier d'être ce qu'il est, finalement. Il n'a pas de complexe vis-à-vis de ses colonnes, ses gens considérés. 6 ans plus tard, il écrit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15-9, voilà ce qu'il écrit. Il écrit « Je suis le moindre de tous les apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Il a une vision un peu plus juste de lui-même. Il se considère comme apôtre. 5 ans plus tard encore, il écrit aux Éphésiens « À moi qui suis le moindre de tous les saints. » Il n'est plus apôtre là. Il est le moindre de tous les saints. Et à la fin de sa vie, quand il écrit à Timothée, qu'est-ce qu'il écrit en 1 Timothée 1,15 ? C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Il se décrit comme le premier de tous les pécheurs. D'accord ? Au début, il se comparait presque aux apôtres. Hein ? Ensuite, il est le moindre des apôtres. Ensuite, le moindre de tous les saints. Et ensuite, le premier des pécheurs. Donc sa considération, son estime de soi, on dit aujourd'hui, il faut vous valoriser, il faut vous aimer, il faut vous estimer. Son estime de soi redescend de plus en plus au fur et à mesure qu'il avance dans la vie chrétienne. Il se rend compte qu'il est le premier de tous les pécheurs. Il se rend compte de sa responsabilité. Et ce chemin vers le haut, c'est un chemin d'abaissement. C'est un chemin de brisement. Alors, je passe tout ce que Paul écrit dans les épreuves, quand il écrit « Nous sommes persécutés mais non abandonnés, abattus mais non perdus, nous portons en nous-mêmes, dans notre corps, la mort de Jésus, etc. » Donc, c'est toute une culture de la faiblesse, une culture de la vulnérabilité, une culture du brisement que Paul a adopté dans sa vie. Parce que sans arrêt, il était opposé à des gens qui contestaient son ministère en disant « Mais qui tu es, toi ? Nous, on est des cadors et toi, t'es rien du tout, Paul. » Et il est obligé de se défendre à chaque fois. Et plus il avance dans la vie, et plus Paul diminue, comme Jean-Baptiste qui disait « Il faut que tu croisses, il faut qu'il croisse et que je diminue. » C'est cette culture de la vulnérabilité, cette culture de la faiblesse, de reconnaître que je ne suis pas grand-chose, que je ne suis pas numéro un, Parce que le monde dit que je dois être numéro un, mais la Bible nous dit non, tu n'es pas numéro un. Tu es juste un homme. Tu es là avec tout ton brisement, ta vie, tes fardeaux, et c'est OK. Parce que dans la culture chrétienne, c'est OK d'être brisé. C'est le lot quotidien. Et c'est important de comprendre ça, parce que sinon, on va passer notre vie à lutter, à prouver qu'on est bien, qu'on est beau extérieurement. Moi, j'ai passé plus de 50 ans de ma vie à essayer de prouver, de paraître bien, de dire que j'avais réussi ça et ça et ça. Et je m'aperçois que ce n'est pas le bon chemin. Donc j'en ai peut-être blessé certains d'entre vous et j'en suis désolé. Et ce n'est pas s'accrocher au fait qu'on est bien, c'est le fait qu'on, comme disait Hudson Taylor, je suis brisé, mais je suis dans la main de Jésus. Jésus est à côté de moi, même si je suis brisé. Et Paul, qui à un moment donné s'accrochait à ses prérogatives religieuses, hein, David, pas le roi David, mais notre David Sutherland, nous a rappelé dans l'étude de Philippiens 3 que Paul, qui avait des lettres de noblesse, qui était pharisien, qui avait une vie irréprochable, eh bien, Philippiens 3 nous dit, il a considéré ces choses comme de la boue, hein, pour gagner Christ, parce que Christ était le plus important. Donc ce n'est pas en voulant être fort, en voulant être numéro un, qu'on aura la paix en Jésus, mais c'est en acceptant que parfois Dieu veut nous briser. Il veut travailler en nous, il veut travailler en moi quelque chose qui l'empêche d'être pleinement en communion avec lui. Et c'est un message que j'adresse aussi aux jeunes baptisés, parce que dans la vie chrétienne, c'est ça. Un bon départ dans la vie chrétienne, c'est comprendre cette notion. Comprendre qui est Jésus pour moi, ça c'est ma conversion, je l'accepte. Mais après, comprendre que je ne suis pas là pour être numéro un, je suis là pour être faible, de manière à ce que lui soit fort. Et c'est ce que l'apôtre Paul va écrire. C'est quand je suis faible que je suis fort. Et la vie de l'apôtre Paul le manifeste, je vous ai montré la gradation de ses paroles, la manière avec laquelle il se présente, illustre ça. Il avait une juste estime de lui-même, comprendre qu'il n'était rien, mais qu'il avait tout pleinement en lui, et que mon but, écrira Paul aux Philippiens 3, c'est de le connaître. Donc cette notion de brisement, cette notion d'être en silence avec Jésus, de pouvoir dialoguer avec lui seul à seul, dialoguer, lui parler de son brisement, lui dire que je suis faible, que je suis abattu, que je suis au bout du rouleau. C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas réciter des listes, c'est dire à Jésus, Seigneur, je suis complètement brisé. Je suis comme un vase brisé. Seigneur, je suis comme un chat-huant sur la gouttière. Je suis seul et abandonné. On pourrait lire des tas de psaumes, le psaume 57, le psaume 142, les psaumes de la caverne où David a peur, il fuit devant Saül, il va perdre la vie, et il écrit, il exprime sa détresse dans le silence et la tranquillité avec Dieu. Et c'est ça la clé. C'est ce que Jésus dira dans le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, une des premières béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, hein, ça c'est dans nos traductions, mais les pauvres en esprit, c'est heureux ceux qui ont conscience de leur pauvreté spirituelle. Le terme grec qui est utilisé, c'est vraiment c'est l'abaissement, c'est l'aplatissement. Heureux ceux qui sont des carpettes, heureux ceux qui sont vidés, qui n'ont plus rien, qui sont paupérisés, qui sont réduits à néant, qui sont mendiants. Heureux les mendiants spirituels. Le royaume des cieux, il est pour les gens comme ça. Quand j'accepte mon brisement, quand j'accepte ma faiblesse, quand je suis dans la culture de la vulnérabilité, c'est là que Dieu peut m'élever et c'est là qu'il peut vraiment me restaurer. C'est là que je goûte à sa présence. Hudson Taylor l'a goûté, l'apôtre Paul l'a goûté, Joseph dans le fond de sa prison, on ne le sait pas, mais il l'a goûté aussi, probablement. Donc ça, c'est un premier point. Le brisement m'amène vers le haut. Une deuxième partie, c'est que le brisement m'amène aussi, parfois, à reconnaître mon péché. Peut-être que Dieu me brise ou permet le brisement parce qu'il veut m'apprendre quelque chose, il veut travailler mon caractère. Mais parfois, Dieu me brise parce que j'ai besoin de reconnaître mon péché. Et je vous pose la question ce matin, et je me la pose à moi aussi. Quand est-ce que pour la dernière fois dans votre vie, vous avez demandé pardon à Dieu ? Quand est-ce que vous avez demandé pardon à un frère ? Quelle est votre culture de la repentance ? Je ne vous demande pas de répondre à voix haute, vous répondez pour vous-même dans votre cœur. Quand, pour la dernière fois, ai-je demandé pardon à Dieu pour un péché? Quand ai-je demandé pardon à un frère? Donc ce brisement qui m'amène à reconnaître mon péché, on n'a pas le temps de le lire, mais je vous encourage à lire le psaume 51. C'est ce psaume très connu de David. David, qui était au fait de sa gloire, commet un adultère et un meurtre. Et il écrit ce psaume 51 qui est magnifique et qu'on devrait relire. Moi, je pense qu'il faut qu'on le relise tout le temps, ce psaume. Parce que ça nous rappelle qu'à un moment donné, nous sommes pécheurs, que nous faillissons en permanence et qu'on a besoin sans arrêt de revenir pour se libérer de tout ça. David a commis un meurtre et un adultère. On peut le lire dans le livre de Samuel, je n'ai pas le temps de le voir aujourd'hui. Et il ne cherche pas d'excuses par rapport à son péché. Il aurait pu dire, oui, mais bien sûr, j'étais fatigué, je n'ai pas pu aller au combat, et puis bon, cette femme, elle n'a qu'à pas se baigner, après tout, zut. Voilà, c'est biblique de blâmer les autres. Quand on regarde, tout le monde blâme tout le monde. Adam blâme Ève, c'est la faute d'Ève. Ève, elle blâme le serpent. Moïse blâme le peuple, parce qu'il est... sans arrêt, on se plaint et on blâme. De toute façon, c'est la faute des autres. C'est ce qu'on a vu dans la question initiale. C'est finalement, c'est qui va me livrer? Ah, c'est pas moi. Ah non, c'est pas moi. Ah, c'est pas moi. C'est Judas qui va livrer. Les disciples sont coupables de rien. Bon, excusez-moi, ils l'ont abandonné quand même tous. Et ça nous montre que ces disciples qui se demandaient, mais c'est qui le coupable, en se disant, pourvu que ce ne soit pas moi, ils ont quand même été coupables. Donc même quand on pense ne pas être coupable, on est coupable. Parce qu'en fait, on abandonne sans arrêt Jésus. Avant de le connaître, on était coupable d'être rebelle vis-à-vis de Dieu. Donc David va dire, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est une prière qu'on devrait faire, que je devrais faire plus souvent. Seigneur, crée en moi un cœur pur. J'ai besoin d'avoir en moi un cœur pur. Et il y a une grande différence entre dire « Oh, je suis désolé, oh, c'est pas grave, on oublie » et de dire à un frère « Écoute, frère ou sœur, est-ce que tu veux bien me pardonner ?» Je t'ai dit ça. Et moi, le premier, dans ma famille, je suis confronté à ça et je ne le fais pas tout le temps. Et ils sont devant moi, là, et c'est difficile pour moi de le dire, mais je reconnais que souvent, je ne demande pas pardon. Et je dois le faire plus souvent. Veux-tu bien me pardonner? C'est vraiment un enseignement qu'il faut pratiquer dans les familles. Parce que c'est la culture la plus importante de la stabilité d'une famille, c'est le pardon qui est accordé ou pas. Donc, si on prend l'exemple de David... David est un bon exemple pour nous parce qu'il a connu les deux types de brisements. Il a connu le brisement du caractère pour le faire devenir roi. Dieu l'a fait passer par le désert et la fuite devant Saül. Mais David aussi, il a connu le brisement du péché. Et ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Dieu le cherchait. Dieu voulait l'emmener plus loin. Et c'est pour ça qu'à la fin du livre de Samuel, lorsqu'on vit les derniers moments de la vie de David, il est écrit « David mourut âgé et rassasié de jours ». Il n'y a pas beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible qui ont ce type de fin, où il est écrit « Il mourut âgé et rassasié de jours ». Je crois qu'il y a Abraham, mais il y a peu de monde qui sont dans cette situation-là. Donc David, pour nous, c'est cet exemple qui a connu les deux brisements. Mais l'exemple ultime, on le verra dans quelques mois. L'exemple ultime, c'est Jésus. Parce que Jésus, la Bible nous dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et lorsqu'Ésaïe écrit ce texte, vous voyez, j'ai mis en rouge là, trois petits points. Ce n'est pas moi qui les ai marqués. C'est le texte biblique qui a ces trois petits points. Ça veut dire qu'au moment où Ésaïe écrit ce livre, inspiré par le Saint-Esprit, il est en train d'écrire cette phrase, il est en train de comprendre la portée de cette phrase qui s'adresse au Messie. Et il est tellement bouleversé qu'il met trois petits points. Il y a, vous savez, dans les psaumes, parfois c'est écrit « pause ». Alors nous, on passe très vite, mais « pause », c'est une pause. Et là, les trois petits points, ça veut dire que quelque part, Ésaïe est saisi par ce texte. Parce que Jésus, l'agneau innocent, qui n'avait jamais péché, eh bien, il a été brisé par la souffrance. Et l'Épître aux Hébreux nous dit de la même manière, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc Jésus aussi a connu le brisement. Pourquoi il a connu le brisement? Il n'avait pas péché, Jésus, il n'avait pas besoin de connaître le brisement. Il était Dieu de toute éternité. Sauf que Jésus est venu sur cette terre pour s'identifier à nous, à chacun de nous, à nous, peuple de Dieu. Il a connu le brisement pour comprendre ce que c'est qu'être brisé. Donc, lorsque vous êtes brisé par la vie, il y en a un qui vous comprend mieux que les autres, c'est Jésus. Parce que lui a connu ça. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. On le reverra plus tard. Alors, je reviens à mes deux questions. Si j'échoue, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le premier brisement, c'est que Dieu, c'est pour notre véritable intérêt qu'il nous corrige. J'ai pris là, c'est la version de la colombe. Pour ceux qui ont la colombe, je trouve que c'est juste. Dieu, c'est pour notre véritable intérêt qu'il nous corrige. Si aujourd'hui vous êtes brisé, ne blâmez pas Dieu. Ne levez pas le poing contre lui. Mais demandez-lui plutôt, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu es en train de m'apprendre? Quel est le trait de caractère que tu es en train de travailler chez moi? Tu veux me faire participer à ta sainteté, mais tu veux m'apprendre quoi? Je vous ai dit, en ce moment, Dieu est en train de m'apprendre la patience. Ça fait des années qu'il me l'apprend. Donc il faut vraiment que je sois patient pour comprendre ça. Je le dis en souriant, mais ce n'est pas toujours facile. Et puis la culpabilité. La culpabilité. Est-ce que vous êtes de ceux qui, ah, c'est jamais de ma faute, c'est toujours l'autre? La Bible nous promet que si nous reconnaissons nos péchés, nous ne serons pas enfoncés. Si dans ce monde, vous montrez un signe de faiblesse, les autres vont peut-être en profiter. Mais avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Si nous reconnaissons nos péchés, nous écrit l'apôtre Jean, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Le pardon, ça libère. Le pardon ne coûte pas. Il coûte à prononcer, mais il libère au final. Donc par rapport à nos deux questions, la Bible nous donne une réponse. Tu veux être le plus grand? Eh bien, commence par servir. Tu es brisé, peut-être Dieu t'apprend quelque chose. Ou peut-être Dieu est en train de te dire que tu as quelque chose à confesser. C'est ce que Dieu a voulu dire à David. Il s'est morfondu pendant un an en voulant cacher son péché. Et Dieu a été bon avec lui parce qu'il lui a envoyé le prophète Nathan. J'aimerais terminer par deux exemples. Deux exemples qui sont tirés l'un des Écritures, l'autre de l'histoire contemporaine. Deux personnages qui ont connu ce premier brisement. Vous allez les reconnaître tout de suite. Vous reconnaissez quelque chose? D'accord. Nelson Mandela et c'est qui l'autre? La tunique multicolore. Joseph, voilà. Nelson Mandela, voilà ce qu'écrit l'archevêque Desmond Tutu, de Nelson Mandela. Et je pense qu'on pourrait afficher les deux, parce que pour moi, c'est vraiment, il y a un fil conducteur. Et quand vous visitez le musée de l'apartheid à Johannesburg, c'est une citation donc, qui est en anglais, que j'ai traduite, de l'archevêque, c'est un archevêque anglican, et qui a compris que Nelson Mandela, il avait besoin, alors il n'est pas chrétien Nelson Mandela, à ma connaissance, hein, sauf si vous avez d'autres informations, mais à un moment donné, il y a eu une transformation chez lui, c'est le brisement a transformé quelque chose en lui. Et quand on voit son action en Afrique du Sud en tant que président, ça aurait pu se terminer par un bain de sang, lorsqu'il y a eu la libération de l'apartheid. Ils ont créé une commission, hein, d'ailleurs Desmond Tutu, il a été président, je crois, de la commission Vérité et Réconciliation. Ils ont nommé une commission pendant plusieurs années où les gens pouvaient venir vider leur sac de tout ce qu'ils avaient subi pendant l'apartheid. Et Nelson Mandela a justement favorisé ça parce qu'il voulait qu'il y ait une réconciliation et qu'il voulait qu'il y ait un pardon. D'accord ? Et il est allé puiser en lui des ressources spirituelles. Joseph, c'est pareil. Joseph, à un moment donné, quand on voit l'ampleur de la mission que Dieu lui a confiée, il ne pouvait que passer par cette prison. Parce qu'il était jeune homme, il était un peu orgueilleux, il parlait de ses rêves de manière inconsidérée, il n'avait pas l'intuition, il n'avait pas le tact pour bien parler de ses rêves. Pourtant, ses rêves étaient justes. Mais dans les deux cas, Dieu a agi en sous-main. Et souvenez-vous de ce verset de l'Épître aux Hébreux, que Dieu nous châtie pour notre bien, ou Dieu nous corrige pour notre bien, afin de nous faire participer à sa sainteté. Voilà, je vous laisse avec ces deux questions, et ces deux réponses, ces deux versets, et surtout le fait qu'on a en Dieu une consolation. Si aujourd'hui vous êtes brisé par votre péché, si vous êtes brisé par les circonstances de la vie, sachez que l'Éternel est près de vous. Et il est là pour vous soutenir et pour vous amener vers l'autre bord. Vers l'autre bord. Amen.